Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h58 et nous sommes le 3 décembre 2018, ça y est, le compte à rebours a commencé. Nous sommes entrés, oui. Il faut essayer d'être positif ce matin après les événements du week-end. On est entré dans la dernière ligne droite avant Noël. Et je sens que l'impatience est grande chez mes deux complices du petit jour, Eva Rock et Céline Acosta, n'est-ce pas Céline?
Demain, j'amène les bûches.
Pas demain, encore un peu de patience. Mais c'est vrai que la période des fêtes arrive à grands pas, avec son cortège de foie gras, de marron glacé, de champagne et autres réjouissances alcoolisées. D'ailleurs, afin de s'y préparer, Céline et Eva avaient décidé de s'offrir un week-end détox. Elles ont limité au maximum leur consommation d'alcool.
C'était pour qu'on se mette à poil ou quoi? Je sais pas, les filles.
C'est bourré ou quoi?
Eh bien, on va avoir besoin de vin pour se réchauffer.
T'as bu du vin? Ah. Oh putain, la chance. C'est un chardonnay, c'est un vin blanc.
Entre l'alcool, le cannabis.
Ils ont pris une cuite ce soir-là au Jet 27. Au Jet 27.
Et pour certains, les fêtes ont visiblement déjà commencé dès le premier week-end de décembre. Bravo les filles. Et Baron, vous êtes quand même en état de poser une petite question à nos auditeurs ce matin.
Mais bien sûr, en fait, il y a un site de voyage qui a posé cette question. Si cette fin 2018 était la dernière chance de voyager dans votre vie, quels sont les pays que vous souhaiteriez visiter?
La dernière chance de voyager dans votre vie?
Oui, et j'ai posé la même question aux auditeurs et vous allez voir, les réponses sont étonnantes.
En gros, si vous devez mourir demain, quel serait le dernier voyage?
L'avant-dernier voyage.
Céline, un mot déjà de la météo de cette semaine qui s'annonce.
Assez pluvieux. Ce sera un enchaînement. Oui, alors ça, voilà. Température très douce. Je vais finir une phrase. Température très douce toute la journée.
En même temps, je vous coupe à chaque fois.
Une succession de perturbations, c'est vrai. Aujourd'hui, ça sera assez pluvieux, à part sur l'extrême sud où on aura encore du soleil.
Merci beaucoup, Céline. Vous souhaitez vous réveiller parfaitement informé, mais avec le sourire, je crois que vous êtes au bon endroit puisque vous écoutez. Debout les copains, 2 heures d'allégresse informative. Eva, vous êtes prête?
J'ai besoin d'amour.
On va dire grosso modo que oui. Debout les copains, c'est parti.
Et bienvenue en ce lundi 3 décembre. Merci d'avoir choisi Europe 1. Très bon réveil à tous, il est 5h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce lundi 3 décembre, c'est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
L'exécutif au pied du mur à l'orée d'une semaine décisive dans la crise des gilets jaunes. Au surlendemain des violences, Emmanuel Macron n'a pas pris la parole. Il charge son Premier ministre de rencontrer des contestataires et l'ensemble des chefs de file politiques. Ça commence dès ce matin à Matignon. Dispositif de justice exceptionnel. Près de 400 gardés à vue, des dizaines vont passer en comparution immédiate à partir d'aujourd'hui. La question de l'efficacité des moyens pour les forces de l'ordre se pose également ce matin. Elles ont par endroits dû reculer devant les insurgés. Vous entendrez dans ce journal l'un d'entre eux demander le soutien de l'armée alors que se prépare samedi l'acte 4. Et puis dans le journal des sports à suivre, les premiers points perdus par le PSG en championnat de France de foot après 14 victoires d'affilée de partout hier soir à Bordeaux.
Europe 1.
16 jours de crise des gilets jaunes et Emmanuel Macron n'a pas pris la parole après les graves débordements samedi en marge des manifestations parisiennes notamment. Rues saccagées, voitures incendiées, arcs de triomphe vandalisés. Le président a chargé Édouard Philippe, Premier ministre, d'ouvrir le dialogue avec les chefs de partis politiques et avec une délégation des gilets jaunes. Ces contestataires, on ne sait pas qui ni quand ils pourraient être reçus. Mais côté classe politique, toute la journée, plusieurs figures vont défiler à Matignon, notamment Olivier Faure, du PS, Laurent Wauquiez des Républicains, Marine Le Pen du Rassemblement National. Pas de précision pour l'heure pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, quel est l'objectif et sur quoi peuvent déboucher ces consultations? On voit cela avec Aurélie Herbemont.
Édouard Philippe va jouer les démineurs auprès de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui appellent à une dissolution de l'Assemblée ou encore de Laurent Wauquiez qui réclame un référendum. Objectif, calmer les esprits en jouant le jeu de la consultation et voir si certains ont des demandes acceptables, glisse-t-on à Matignon, alors que dans la majorité, beaucoup accusent l'opposition de ne pas avoir été digne en jetant de l'huile sur le feu. C'est un moyen de les mettre face à leurs responsabilités, applaudit une députée En Marche. Et comme ces partis politiques n'ont pas franchement la main sur le mouvement, Édouard Philippe va aussi rencontrer des gilets jaunes ouverts au dialogue et contre les violences. Le Premier ministre va leur proposer de travailler ensemble sur la mise en œuvre des concertations locales qui doivent débuter d'ici la fin de l'année, avec un message destiné à faire redescendre la pression. Selon son entourage, on a entendu qu'il faut accompagner les plus modestes.
Aurélie Herbemont. Et toujours des blocages un peu partout en France, dans le Finistère et le Morbihan, par endroits difficiles de faire le plein d'essence. pénurie et c'est une conséquence du blocage des dépôts pétroliers de Lorient et Brest. Restriction à partir d'aujourd'hui, annonce la préfecture. À Paris, beaucoup de commerces vandalisés n'ouvriront pas ce matin, des centaines de milliers d'euros de réparations. Combien exactement? Eh bien, une réunion se tient dès 8h15 à Bercy pour évaluer l'impact économique des émeutes en ce mois de Noël.
Et après les violences, la justice s'organise.
412 interpellations, 378 gardés à vue lors des échauffourées, afflux d'une ampleur inédite pour la plupart des hommes de 30 à 40 ans venant de province et insérés socialement. Près des deux tiers feront l'objet d'un déferrement. Première comparution immédiate dès aujourd'hui. La réponse pénale sera extrêmement ferme. Je cite Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Certains encourent jusqu'à 7 ans de prison.
Les forces de l'ordre, elles, s'inquiètent pour la suite.
Parce que samedi, nouvel appel à manifester encore. Avant-hier, les actions contre les CRS ont été particulièrement violentes. Jets de pavés, de boules de pétanque. Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, demande l'appui de l'armée.
Aujourd'hui, on sent malheureusement une montée de la violence, même chez ceux qui au départ étaient particulièrement pacifiques. Et nous, aujourd'hui, on n'en peut plus. On n'a plus de vie de famille, on n'a plus de capacité à nous reposer. Et en plus de ça, on est confronté à une violence extrême. Nous, à un moment donné, on va dire stop, là, c'est terminé. Alors attention, entendons bien, moi je vois pas du tout l'intérêt de l'état d'urgence. L'état d'urgence, il a été englobé, je dirais, dans le droit commun, à travers la loi sécurité, appelons ça comme on veut, donc ça ne sert à rien. Par contre, l'appui de l'armée, on n'a pas besoin d'état d'urgence pour l'avoir. Moi je considère que ça existe déjà. On peut permettre à des militaires, généralement ceux issus de l'opération Sentinelle, de remplacer les GRS sur des points de garde bâtimentaire. Donc on peut le faire, c'est nécessaire, ça nous permettrait de faire du roulement et de permettre de quantifier les forces d'opération pour le prochain week-end.
Des propos recueillis par Marguerite Lefebvre pour Europe 1.
Et à 6h20, nous irons voir à l'étranger. Jérôme, comment cette crise et les images de violence sont-elles perçues? Nous serons en direct d'Allemagne avec la correspondante d'Europe 1 à Berlin, Hélène Kohl.
Europe 1, il est 5h05.
Dans le reste de l'actualité, la COP 24, 3 ans après une COP 21 ambitieuse mais fragilisée par le retrait des États-Unis, un nouveau sommet sur le climat s'ouvre en Pologne. Les pays les plus menacés par les catastrophes climatiques vont réclamer plus d'engagement de leurs partenaires du Nord. Trêve dans la guerre commerciale entre Chine et États-Unis. Au sortir du G20 en Argentine, Washington repousse de 90 jours la hausse des tarifs douaniers sur les importations chinoises et Pékin s'engage à augmenter les importations américaines. Et puis, plus de 1300 bouteilles du domaine de la Romanée Conti, vendues hier aux enchères à Genève, issues de la cave personnelle d'un collectionneur européen. Bilan, 10 200 000 euros. Un lot de 12 bouteilles allant de 1937 à 1991 a été adjugé 486 600 euros.
Et là, t'espères que la bouteille n'est pas bouchonnée.
Hein. Oh, le bon sens près de chez vous. Eva Rock, merci. Jérôme, à l'heure d'enchaîner avec le journal des sports, je crois qu'il faut avouer à nos auditeurs, nous avons passé le week-end ensemble à la campagne. Je vous avais dit...
J'ai deux passions dans la vie. La sexualité de groupe et les maisons normandes.
Je ne sais pas lequel de ces deux arguments vous a séduit, mais vous avez répondu présent. On révélera peut-être tout à l'heure 2-3 détails de ce week-end, mais d'abord, le journal des sports. À la une du journal des sports ce matin, une fin de série.
Après 14 succès d'affilée en 14 journées de Ligue 1 de football, les joueurs du PSG ont lâché des points hier soir. Fin de la 15e journée, les Bordelais sont parvenus à les contenir. De partout en Gironde, Neymar et Mbappé, buteurs côté parisien. Neymar encore sorti sur blessure, le haut de la cuisse droite toujours. Les Bordelais sont par deux fois revenus au score, dont la seconde fois à la 83e minute. L'entraîneur Eric Bédoué livre l'une des clés du succès. La solidarité.
Quand on se dévoue pour les copains, quand on fait l'effort pour les copains et tout ça, c'est agréable à voir. Le fait de jouer ensemble, le fait d'être proche, d'avoir été très combatif, on n'a pas spécialement reculé. Hein. On a essayé de les presser. On est revenu deux fois. On a fait un match avec un public, un stade qui nous encourageait, c'était vraiment très très bien.
Des propos recueillis par Jérôme Berthelot.
Bon, il faut quand même rappeler que Paris reste toujours largement en tête du championnat.
Voilà,
quand 4, même.
14 points d'avance sur les Dauphins Montpellier-Rhin, Bordeaux 11e et Marseille toujours 5e, mais a désormais 2 points du podium après un nul un peu fade, hein, 0-0 hier à domicile contre Reims. Également hier, Strasbourg gagne à Rennes 4-1 et Toulouse-Dijon 2-2. Le foot aujourd'hui, c'est l'attribution du Ballon d'Or. C'est aujourd'hui le joueur de l'année, la récompense individuelle suprême. Alors il y en a des Français dans les finalistes, Griezmann, Mbappé, Varane, Pogba, Kanté. mais un favori, a priori le Croate Luka Modric, verdict vers 22h. Ce devrait donc être la fin de 10 ans d'hégémonie de la paire Messi-Ronaldo. Et puis à la mi-journée à Dublin, le patron de l'UEFA va détailler le fonctionnement de la nouvelle Coupe d'Europe. Une troisième, ça a été officialisé hier par l'Europe du foot. On sait déjà qu'elle sera réservée aux clubs des pays les plus petits, entrée en vigueur en 2021.
Le handball et les championnes du monde qui réagissent.
Oui, la victoire des Bleus hier pour le deuxième match de l'Euro organisé en France. Large succès, 30-21 face aux Slovènes, c'était à Nancy. Après la défaite inaugurale contre les Russes, elles sont qualifiées pour le tour suivant, les Françaises. Troisième et dernier match de la première phase, demain, 21h, face au Monténégro.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
Première épreuve et première victoire de la saison en Coupe du Monde de biathlon pour l'équipe de France, emmenée par la superstar Martin Fourcade. Les Bleus ont gagné hier l'épreuve du relais mixte. Ça se passait en Slovénie. Le relais mixte français, champion olympique en titre, hein, s'il vous plaît.
Ouais bah oui, on l'oublie pas.
Bah non.
Merci Jérôme Lacroix pour ce journal des sports. Et je dois dire que c'est quand même un véritable miracle que vous soyez si sportif quand on voit ce que vous bouffez. J'en ai fait pu constater lors de ce week-end en Normandie que nous avons passé ensemble que vous aviez un sacré coup de fourchette. Hein.
Où sont les poulards? J'ai faim. Oui, où sont les fèves? Les pâtés de sel. Oui, il n'y a pas quelques
que
soissons avec de la bonne soie?
Oui, on va trouver ça.
Une chèvre en rôti, quelques signes blancs.
Et les 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, vous pensez peut-être que j'avais fait le tour des chansons pourries sur le changement de vie pour illustrer notre séquence Fallait oser.
Allez.
Ne me sous-estimez jamais.
Changer de vie. Changer de vie.
À 5h10, au lieu de le chanter, si on le faisait. Alexandra a osé, un accident a changé sa vie, mais ça lui donnait une idée, monter une salle de sport adaptée aux personnes handicapées.
Changer de vie.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 5h09, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta.
Oui.
Alors là, aujourd'hui, c'est la totale, la jambon fromage, la complète, de nuages, pluie et vent, me dites-vous.
Oui, et ça quasiment partout. On aura quand même quelques éclaircies sur la moitié nord, au prix d'un vent soutenu. Un ciel orageux pour cet après-midi sur le nord-nord-est. Le soleil va briller encore, même s'il sera souvent voilé sur l'extrême sud des Pyrénées aux Alpes du Sud. Entre les deux, c'est un ciel bien couvert, des averses et là aussi beaucoup de vent. Le tout sous des températures très douces. Aujourd'hui, 8 à 15 degrés en moyenne, ça c'est pour ce matin. 13 à 17 pour cet après-midi, jusqu'à 21 degrés, même près de la Méditerranée.
Merci Céline. Ma chère Eva.
Oui, si cette fin 2018 était la dernière chance de voyager dans votre vie, quels sont les pays que vous souhaiteriez visiter? C'est la question qu'on a posée à nos auditeurs sur Twitter. Eh bien, ils nous ont répondu avec le hashtag Europe 1. Jean-Pierre, il nous dirait « Je retournerai au Canada voir les chutes du Niagara ». Et Mister Nobody nous dit « Moi, ce serait les États-Unis, New York, Nouvelle-Orléans et le Japon. Et puis je reviens en France, finir mes jours à Calvi ». Et enfin, Olivier nous a dit « Un pays sans gilets jaunes
». Merci Eva, merci aux auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h pour tout savoir de l'actu du jour, pour s'en amuser aussi, mais également pour...
Changer de vie, changer de vie.
Aujourd'hui, dans Fallait oser, nous partons à la rencontre d'Alexandra Guinoiseau. Elle travaillait dans la restauration, mais après un accident de la route, il y a 4 ans, elle est devenue chef d'entreprise.
Oui, son accident lui a valu 3 ans en centre de rééducation et lui a laissé des séquelles à la jambe droite, d'où son idée de créer une salle de sport adaptée.
Fallait oser.
C'est comme une salle classique, mais il y a moins de matériel. Et le matériel est adapté, c'est-à-dire que par exemple, la personne en fauteuil n'a pas besoin de faire de transfert. Il y a un siège qui se décale sur le côté et on peut mettre un fauteuil. Parce que c'est vrai qu'après un accident, une maladie, le sport, on ne peut plus le faire tout à fait de la même façon. Il y a quand même des choses, par exemple, j'ai beaucoup de matériel dans le corps, donc forcément les mouvements sont plus les mêmes. Donc pour ça, il faut qu'on soit accompagné, parce que de nous-mêmes, on sait plus, on sait pas très bien où sont les limites, ce qu'il faut faire. Donc c'est de là qu'est venue cette idée, en fin de compte.
Alors la salle attire aussi bien des personnes valides qu'handicapées. Au bout d'un an et demi d'existence, elle compte aujourd'hui 200 adhérents.
Pour moi, c'est un petit peu une revanche sur la vie. Pour moi, c'est faire de quelque chose de négatif une chose positive, arriver à rebondir là-dessus. Et c'est vrai que ce qui me pousse à continuer, c'est aussi de voir les gens qui viennent, la satisfaction qu'ils ont et le bien-être que ça peut leur apporter. Et voire même, y en a certains qui nous disent qu'ils prennent moins de médicaments, qu'ils ont retrouvé plus d'équilibre. Et c'est vrai que du coup, quelqu'un qui est valide, qui vient à la salle et qui voit une autre personne à côté enlever sa prothèse de jambe pour pouvoir faire ses abdos, par exemple, ça donne à réfléchir quand même. Donc ça, c'est une super satisfaction.
Cette salle qui s'appelle Cap Adapt est pour l'instant implantée dans le Maine-et-Loire, mais Alexandra Guinoiseau serait ravie que son idée sème ailleurs.
Exactement. Alors si vous aussi vous avez changé de vie, si vous avez osé sortir des sentiers battus, ben vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1. Et les 5h13, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos enrobées d'une délicate couche d'humour, mais aussi et surtout de tendresse. Car oui, parfois, au lieu de me foutre de sa gueule, j'ai envie de dédier cette matinale à Eva Rock.
Ah. Toi, mon véritable amour.
Non.
Vous me croyez, Eva ?
Bof.
Bien vu. À suivre. Lundi, les bons tuyaux, tous nos conseils culture et nouvelles technologies pour pimenter votre semaine. Et puis notre page santé avec ce médecin qui sait que l'humour est un des médicaments les plus précieux. Humour qu'il pratique au quotidien avec ses patients à l'hôpital.
Bon, il a encore plein d'eczéma. Hein. Quand je dis que vous avez encore plein d'eczéma, il va falloir les réussir cette fois. Hein.
Le docteur Ichou arrive et il est en forme. Mais d'abord un peu de musicothérapie, les filles. Cats on Trees, Sirens Call sur Europe 1.
Whatever way, the same. Nothing according to plan. If I could just see clear into you. The same face every day. The sirens calling away. This means so much more. The floating boat is carrying.
Sun Trees, Sirens Call sur Europe 1.
Europe 1. Il est 5h17, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec le pressing, notre revue de presse en mode zapping et la page santé du docteur Ichou qui reviendra sur le procès de la deuxième formule du Levothyrox qui s'ouvre aujourd'hui à Lyon. A tout de suite.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 5h18, l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
Plusieurs figures politiques reçues toute la journée à Matignon par le Premier ministre pour évoquer la crise des Gilets jaunes, Olivier Faure, Laurent Wauquiez et Marine Le Pen notamment. Une délégation de Gilets jaunes doit également être reçue mais pour l'heure pas de date définie, on ne sait même pas quels pourraient être les contestataires présents à cet entretien. La réponse pénale sera extrêmement ferme, parole de la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Après les violences de samedi, des dizaines de manifestants placés en garde à vue doivent passer en comparution immédiate. Enfin, un petit mot de foot et ses premiers points perdus perdu par le PSG en championnat de France de Ligue 1 après 14 succès d'affilée, 2 partout hier soir à Bordeaux en match de clôture de la 15e journée.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 3 décembre. Pourtant, une question reste en suspens. Sur qui miser cet après-midi à Vincennes? Retrouvons vite notre expert hippique Thierry Léger, car comme disait Guy Lux...
Prenez l'avis du bon Quintet.
Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Vincennes et mon pari gagnant sera le 101 Bois du Bonnet. Irrésistible lors de sa dernière tentative le 12 novembre dans le nord de la France sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, il s'est imposé ce soir-là sans aucune émotion et avec la manière. Le style de ce succès et sa parfaite condition physique actuelle me permet de vous affirmer que sur sa lancée, ce trotteur expérimenté pourrait bien doubler la mise. Alors notez bien pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la première course, le numéro 1, Bois du Bonnet.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h19.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et ça y est, dans la colloque DLC, ce week-end, on a décoré le sapin de Noël. Quelle joie de se réveiller, de prendre le petit déjeuner ensemble devant ce sublime sapin, les amis. Même si cette ambiance de Noël a tendance à ramollir un peu Jérôme Lacroix, l'étalon de notre colocation, Eva et Céline sont un peu restées sur leur faim. Elles ont eu beau l'inviter à dormir avec elles dans leur nouveau water size, waterbed king size.
Viens avec nous, Jérôme. Mais oui, viens avec nous.
Mais allez.
Si, allez. Oh là là.
Rien n'y fit. Jérôme a passé les trois quarts du week-end à bouffer des Monster Munch devant Turbo. Et quand il s'est enfin décidé à les rejoindre pour une pause gourmande, le résultat n'a pas été à la hauteur de leurs attentes.
Et ça a marché un jour ou pas, en fait?
C'est compliqué, hein, putain. J'ai l'impression que le premier jour, c'est là où ça s'est mieux passé, ouais.
Oh, ne lui jetez pas la bière. Il fera mieux la prochaine fois. Reprenons-nous. C'est l'heure du pressing.
C'est l'inverse, en fait. Souvent, le premier jour où ça marche pas.
Bien vu, Céline. C'est pas faux. Vous nous apprenez de réelles indiscrétions sur cette matinée. Notre revue de presse en mode zapping, les amis. À la une de vos quotidiens ce matin, un sujet et un seul, évidemment, la crise des gilets jaunes pour le Figaro. La France sous le choc attend des réponses. Le Parisien interpelle Emmanuel Macron. Il faut des réponses. Quant à Libération, le quotidien reprend la une d'hier. Visage du président en gros plan sur fond jaune. Hier, le titre était la fièvre. Ce matin, c'est le mot submergé qui s'affiche en grand. Et vous, mes insatiables fouineurs, qu'avez-vous trouvé dans la presse pour nous, Eva Rock?
Eh bien, les gilets jaunes font aussi la une des quotidiens à l'étranger. C'est Courrier International, mais aussi Le Monde ou encore Le Figaro qui ont repéré quelques titres et commentaires, comme celui de la correspondante du magazine américain Time qui écrit « Emmanuel Macron est perçu dans l'esprit de beaucoup de gens comme un riche, je sais tout, persuadé d'avoir toujours raison ». Constat plus économique que politique pour le Washington Post qui a choisi de couvrir les événements depuis Besançon en expliquant à ses lecteurs que le mouvement était aussi celui de la province contre la capitale. Et il cite un consultant, alors en réduction de la pauvreté, je ne savais pas que ça existait. Cette personne dit « Il y a une forme de désespoir post-industriel qui ronge maintenant les classes moyennes et ouvrières qui ont le plus souffert de la crise brutale de 2008 et des coupes budgétaires qui ont suivi ». La presse espagnole comme El País parle de chaos et commente « La France, pays où la tentation révolutionnaire n'est jamais loin et fait partie de l'identité au même titre que le drapeau et l'hymne national, flirte avec la crise politique ». Commentaire intéressant aussi au Canada, The Globe and Mail analyse cette crise comme un épiphénomène mondial et tisse en fait des parallèles. Il existe un parallèle entre ce qui se passe en France et dans presque tous les pays développés, y compris le Canada, alors que de confortables élites urbaines cherchent à imposer leur programme de lutte contre le changement climatique à une population plus large qui peine à payer ses factures. Et puis, je finis avec la chaîne d'information Russian Today, qui a préféré mettre en avant la brutalité de la police française face aux manifestants et citons longuement Jean-Luc Mélenchon qui parle de manifestants pacifiques victimes de l'acharnement de la police sur la place de l'Étoile. Tout est une question de point de vue, même dans les éditos étrangers.
Manque pas d'humour, hein,
ouais, oui.
Et Eva, dites-moi, vous avez lu le Financial Times, donc comment ils appellent les gilets jaunes, les Yellow Jackets?
Les Yellow Jackets,
ah, oui, c'est ça. Ça sonne bien. Oui.
Alors je voulais le faire en plusieurs langues, mais l'allemand, j'arrivais pas
c'est-à-dire
à vous le dire. Parce qu'ils
ça aurait été très drôle,
ils ont tous décliné. Oui, mais j'arrive pas.
Là, vous avez 5 minutes pour vous entraîner.
D'accord, ok.
Vous nous ferez à la fin un petit tour d'horizon avec les titres. Céline Dacosta, qu'avez-vous repéré pour nous dans les journaux?
Moi, je vous parlais d'une histoire de nuisance sonore entre voisins trouvée dans les pages région du Parisien. Ça se passe sur les rives du lac Léman, en Haute-Savoie, à Vétramontou, précisément. Vous connaissez Vétramontou?
Ah non.
Et bien voilà, ça se passe là. Et les riverains ne sont pas contents du tout. Leur voisin, qui n'est autre que le futur roi des Émirats Arabes Unis, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, né, vous vous en doutez pas, par un adepte du covoiturage, encore moins du bus. Alors, il a des limousines, c'est vrai, mais quand il arrive à Genève, il ne veut pas être coincé dans les embouteillages qui arrivent souvent. Alors il a demandé, en toute simplicité, l'autorisation de construire un héliport sur sa propriété. Et comme c'est un futur roi, eh bien, le gouvernement français, par le biais de la préfecture de la Haute-Savoie, a donné son feu vert à la construction de cet héliport, mais a obtenu quand même que les hélicoptères seraient de petite taille, moins bruyants que les gros. Alors est-ce que ça va suffire à calmer les riverains qui, on les comprend, n'ont pas envie d'un balai incessant d'hélico au-dessus de leur tête, hein, c'est qu'il doit avoir des copains quand même, notre ami Prince. Bah, pas sûr du tout. D'ailleurs, l'un d'entre eux dit dans l'article, nous, on nous refuse la construction d'une cabane de jardin. Lui, il a tous les droits. Alors, c'est sûr que vu comme ça. Mais alors, j'ai regardé, il y a quand même des recours. On peut s'entendre légalement avec des démarches à l'amiable. On peut, par exemple, adresser un courrier à l'auteur du bruit, alors à un courrier simple, et puis recommander hein, si la gêne persiste, ou bien faire appel à une tierce personne pour tenter de régler le conflit. Ouais, je vois que personne n'est convaincu. Moi, non.
Oui, ça va lui faire peur, je pense, les courriers.
En vrai, je vois pas trop de solutions, mais bon,
c'est. Quand il va aller les chercher à la poste.
C'est pas si bruyant, le bruit d'un hélico. Quand t'es dans ton jardin, un petit verre, je sais pas. En tout cas, c'est une petite histoire de voisinage à lire dans Le Parisien aujourd'hui.
Merci Céline. Jérôme Lacroix, vous qui vous déplacez uniquement en hélicoptère.
Oui, bien sûr.
Très, très, très vite. Et de la Normandie.
Pour le travail seulement.
Hein, professionnellement, évidemment. Voilà.
Ce matin, un prénom et un nom, et ça va faire tilt tout de suite chez tout le monde. Ah. Mamoudou Gassama. La belle histoire
de Spider-Man,
ce jeune homme de 22 ans absolument, alors sans papier, qui avait été escaladé il y a 6 mois, dans 4 étages de la façade d'un immeuble parisien pour sauver un enfant suspendu dans le vide. Et bien, elle continue cette belle histoire pour le désormais franco-malien, le premier jour du reste de sa vie. Titre ce matin, un article d'Aujourd'hui en France. Mamoudou Gassama, il intègre aujourd'hui la prestigieuse brigade des sapeurs-pompiers de Paris, service civique de 10 mois. Alors depuis son sauvetage héroïque, qu'est-ce qui a changé ? Bah, il est reconnu dans la rue. La journaliste Aurélie Foulon, qu'il a rencontrée pour l'interview, raconte qu'en 200 mètres, il est reconnu 3 fois par des passants qui sollicitent des photos, malgré sa discrétion voulue hein, après le phénomène mondial que sont devenues les images de son acte. Il prend des cours de français, alors tout n'est pas encore parfait, mais il raconte tout de même ce parcours qui l'a mené du ramassage du Nil au Mali à une situation de migrant à 15 ans, le Burkina, le Niger, la Libye, enfin l'Italie, après avoir été secouru une fois en mer.
C'est un jour, il y aura un film.
Ah oui, oui.
Bon, alors,
lui, il dit que c'est pas du tout ce qu'il cherche, mais évidemment, c'est une histoire.
Non, mais voilà, ou pas, ça
voilà,
sera
oui, absolument. C'est à ce moment de sa vie, au moment où il arrive en Italie, qu'il commence la musculation qui va le mener vers le destin qu'on connaît, c'est-à-dire jusqu'à l'Élysée. Alors, peu après le sauvetage, il a été invité au Mali par le président. Là, il a revu son père. 7 ans après, il ne l'avait pas revu depuis son départ du pays. Il a aussi reçu un prix humanitaire aux États-Unis. Alors là, il a rencontré Snoop Dogg, le rappeur, et d'autres stars. Et il est aussi devenu un grand ami de la Sana Batili, qui avait sauvé des vies lors de l'attentat de l'hypercachère. Lui, Mamoudou Gassama, il ne pense qu'à une chose, faire carrière chez les pompiers. Et ça démarre aujourd'hui.
Super histoire. Merci beaucoup, Jérôme Lacroix. Eva, vous avez eu le temps de relire vos runes de la personne.
Comment
ça,
vous ne retrouvez pas mon papier?
Vous ne retrouvez pas votre papier?
Mais non, je sais plus ce que j'ai. Ouais, je vous le raconte demain. Parce que je pense que la crise des gilets jaunes, ça va
oui,
terminer.
Voilà. Je pense que les gilets jaunes seront toujours dans l'actu
demain.
On reparlera des Yellow Jackets demain. Merci beaucoup, les amis. Le pressing, notre revue de presse en mode zapping, referme ses portes. L'heure peut-être enfin pour Jérôme Lacroix de satisfaire les attentes d'Eva et Céline.
Ou pas. Il est 5h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la météo et le journal d'Hélène Zeleny à suivre. Prodigieux réveil à l'écoute d'Europe.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Céline Dacosta, on fait un grand point sur la météo de ce 3 décembre avec vous. Encore un peu de soleil entre les Pyrénées et les Alpes du Sud.
Oui, un soleil voilé mais bien présent et ça toute la journée. On aura également quelques éclaircies en remontant dans la vallée du Rhône pour cet après-midi. Plus au nord entre la Bretagne, l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, c'est un ciel mitigé avec des nuages, des éclaircies, des averses, du vent et quelques coups de tonnerre près des frontières du Nord pour ce matin. Ce temps orageux va gagner quasiment toute la moitié nord cet après-midi, hein, surtout le nord et le nord-est. Entre les deux, c'est un temps maussade, un ciel bien couvert avec des averses et là aussi un vent soutenu dans l'après-midi, hein, des rafales qui pourront aller jusqu'à 70 km/h. Pour la Corse, c'est du beau temps et puis on aura un petit peu de neige également sur les Alpes du Nord à partir de 2200 mètres.
Un mot des températures.
Elle reste très douce pour la saison avec cet après-midi 13 degrés au Havre, à Aurillac, 14 à Rouen, à Nancy, 15 degrés à Caen, à Paris, à Lyon, 16 à Clermont-Ferrand et Strasbourg, 17 à Bordeaux, 18 à Toulouse. Ça grimpe encore avec 20 degrés à Toulon et même 21 à Perpignan. Et puis ce matin, les minimales vont de 8 à 15 degrés, c'est déjà très doux. Il fait 14 degrés en ce moment à Paris.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe, vous amuse, vous cajole. Si ça ne tenait qu'à moi, chers auditeurs, je vous porterai individuellement le petit déjeuner au lit. À suivre lundi, les bons tuyaux, tous nos conseils culture et nouvelles technologies, avec notamment aujourd'hui une pièce de théâtre coup de cœur. Et puis évidemment notre page santé avec le médecin traitant d'Europe 1, Marcel Ichoux, qui dans son cabinet reçoit des cas parfois étonnants.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est copain?
Comment ça, copain? Foutez-moi!
Oui, copain, c'est son nom. On l'appelait copain comme cochon.
Mais pourquoi vous êtes venu ici? Je ne fais pas les bêtes!
Il fait de l'anémie.
Il fait de l'anémie? Mais bouffez-le, moi je peux vous dire, mais bouffez-le! Bouffez-le!
Un lancement rieur pour un sujet qui l'est moins, puisque Marcel ce matin évoquera le procès qui s'ouvre à Lyon, le procès du Lévothyrox. Il nous parlera de ce médicament contre le laboratoire duquel plus de 4000 patients ont porté plainte.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller. Il est 5h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce lundi 3 décembre 2018. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Les impressionnants dégâts dans le quartier des Champs-Élysées après la manifestation des Gilets jaunes samedi et notamment l'Arc de Triomphe vandalisé. Une série de consultations politiques s'ouvre ce matin à Matignon. Y aura-t-il un acte 4 du mouvement? Les appels circulent déjà et certains Gilets jaunes ont bien l'intention d'installer les barrages dans la durée. Nous irons en Haute-Savoie. Et puis le Ballon d'Or décerné aujourd'hui aux meilleurs footballeurs du monde. Plusieurs Français peuvent prétendre au titre, comme Mbappé ou Griezmann. On va y revenir dans le journal des sports.
Europe 1.
263 blessés dans toute la France, 133 à Paris, 378 gardes à vue et des dégâts très importants. Bilan de la troisième journée de mobilisation des Gilets jaunes. Parmi les dégradations dans la capitale, celle qui est sans aucun doute la plus symbolique, c'est l'Arc de Triomphe, tagué, l'intérieur entièrement saccagé, des centaines de milliers d'euros de dégâts. Pourtant, hier comme chaque jour, la flamme du soldat inconnu a bien été ravivée. Cérémonie à laquelle assistait notamment le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer ainsi que Geneviève Darrieussecq. Elle est secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées.
C'est le symbole de la nation, la flamme de la nation qui est sous cet arc de triomphe. Donc pour moi, l'arc de triomphe est un symbole fort de la France et c'était s'attaquer à la France. Ces gens-là veulent le chaos. Je dis aux personnes qui sont en colère que je comprends les demandes, je comprends qu'ils expriment des demandes urgentes. Mais tout cela ne pourra se passer que par une action politique, pas par la violence et le chaos.
La secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées avec Rémi Botsaron pour Europe 1. Elle évoquait une action politique justement ce matin à la demande d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre commence à recevoir les différents chefs de parti ainsi que des représentants des Gilets jaunes. Première attendue à Matignon, la maire de Paris, Anne Hidalgo à 8h30. Suivra Olivier Faure à 10h.
Et justement le patron du PS qui sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara tout à l'heure à 8h15 sur Europe 1.
Il est 5h32.
Le mouvement des Gilets jaunes semble bien parti pour durer.
Et oui, des appels circulent déjà sur les réseaux sociaux pour une quatrième manifestation, samedi, à Paris. En région, certains s'installent pour de bon sur les barrages, comme sur ce rond-point à l'entrée de Thonon, en Haute-Savoie. Un campement baptisé « Village des irréductibles gaulois ». Il est installé depuis le tout début du mouvement, le 17 novembre. Un village avec cabane, cuisine et même toilettes, tenu notamment par des retraités extrêmement déterminés.
Assis sur un banc devant un petit brasero, sous un abri de bois et de toile, Robert garde un œil sur son poulailler, un coq et deux poules qu'il a ramené il y a quelques jours. À 67 ans, cet ancien boucher qui n'arrive pas à joindre les deux bouts avec 1080 euros de retraite est là au quotidien.
J'arrive à 6h du matin, on remet le village en ordre, je balaye le caniveau pour pas y être saleté, je remets la signalisation en place, on boit un café, un petit croissant ou un pain au chocolat. Et ici, on a fait une convivialité formidable.
Une convivialité qu'apprécie aussi Vanda, cette septuagénaire toujours souriante sous son bonnet de lutin du Père Noël, ne passe pas seulement ses journées. Ici.
J'ai passé une nuit aussi, extraordinaire. Non, j'ai pas dormi. Ah non, on n'a pas dormi, on s'occupait du feu, on était quelques personnes, quoi.
Vous êtes prête à revenir ici pendant longtemps, tous les jours?
Ah oui. Jusqu'à l'année prochaine, je fais Noël là, ça me dérange pas. J'apporterai la dinde, des bûches de Noël que je fais moi.
Une détermination partagée par Georges, 71 ans, ancien charpentier qui vit avec 900 euros par mois.
Bon, on va faire le siège, j'ai tout mon temps, je peux rester ici jusqu'à Pâques s'il faut. Non, on cédera pas, de toute façon, je pense qu'il cédera avant qu'on cède.
Et Georges est tellement présent ici que pour le voir, sa compagne est obligée de venir au village gaulois. À Margencelles, Rémi Pierre, Europe 1.
Et puis dans l'ouest de la France, de nombreuses stations-services du Finistère et du Morbihan sont en rupture totale ou partielle de carburant, conséquence du blocage des dépôts pétroliers de Lorient et de Brest par des indépendants du BTP, rejoints par des gilets jaunes. À partir de 7h tout à l'heure, le dépôt de Donges en Loire-Atlantique devrait également être bloqué. Dès aujourd'hui, le préfet du Finistère met en place des restrictions, pas plus de 30 euros de carburant par voiture.
La COP24, 24e conférence de l'ONU sur le climat, s'est ouverte en Pologne.
Oui, les impacts du changement climatique n'ont jamais été aussi graves. grave, rappelle la responsable climat des Nations Unies. Et ce matin, la Banque mondiale annonce le déblocage de 200 milliards de dollars de financement de 2021 à 2025 pour aider les pays en développement face au changement climatique. C'est le double de la période précédente. Semaine d'hommage à George W. Bush aux États-Unis. L'ancien président sera inhumé mercredi à Washington, journée de deuil national. Une chapelle ardente sera mise en place à partir d'aujourd'hui sous la coupole du Capitole. Une première en Espagne, un petit parti d'extrême droite entre au Parlement régional d'Andalousie. Il met fin à la domination de la gauche dans la région la plus peuplée du pays. Et puis ça vous a peut-être échappé Mathieu, alors que je vous ai très pointu sur la question. Le deuxième championnat du monde du pull moche se tenait hier à Albi. Ce n'est pas vous qui avez gagné, je rassure tout le monde. Et pourtant. Alors dans la catégorie adulte solo, c'est un certain Pascal qui a remporté le trophée. Grâce à une histoire de famille, une peau de renarde capturée par son grand-père, assemblée à un pull tricoté par sa grand-mère.
Oh là là, le résultat doit être très beau.
Magnifique.
Merci, c'était la renarde. C'était le journal d'Hélène Zelani. Pour vous remercier Hélène, je vous propose qu'on fasse un peu d'exercice tous ensemble, car n'oublions jamais que...
Le sport, c'est la jeunesse.
Voici le journal des sports de Jérôme Lacroix. À la une, Jérôme, une réaction de championne.
Les Bleus du handball ont un statut à assumer. Elles sont championnes du monde en titre et elles sont en quête depuis jeudi dernier d'un titre de championne d'Europe devant le public français. Battues au premier match par les Russes, elles ont hier largement dominé les Slovènes 30-21, succès qui les qualifie pour le tour suivant mais qui a surtout libéré les esprits. La joueuse Grace Zahadi, meilleure marqueuse hier, 6 buts.
C'est une victoire qui fait du bien. Parce qu'on a su rebondir après le match de la Russie, on s'est regardé droit dans les yeux, on s'est dit certaines choses et c'est bien, je suis contente qu'on ait pu concrétiser par ce match-là. Donc j'espère qu'on va continuer dans cette voie-là parce que c'est vraiment plaisant de jouer comme ça.
Des propos recueillis par Christophe Lamarre, dernier match du premier tour demain, 21h, France-Monténégro. Le handball côté garçon, c'est la Ligue des champions et les tenants du titre montpelliérains ne verront peut-être même pas les huitièmes de finale. Huitième défaite en 10 matchs hier, 25-19 à Veszprém en Hongrie. Espoir qui subsiste en revanche pour les Nantais malgré un nul décevant hier, 29-29 à Celje en Slovénie.
Ah oui, vous avez réussi à le dire. Sur le papier, ça paraissait lisible. Le foot est un nul également pour les Parisiens.
Deux premiers points perdus par les champions de France de partout hier soir à Bordeaux, fin de la 15e journée de Ligue 1. Bravo aux Bordelais, hein, les premiers à ne pas perdre face aux Parisiens en championnat qui restaient sur 14 matchs de Ligue 1 victorieux. Ces Parisiens qui restent toutefois largement premiers du classement. Les Bordelais sont 11e. À noter le 0-0 des Marseillais à domicile contre Reims. L'OM toujours 5e ce matin, à 2 points du podium.
On termine, Jérôme, par la personnalité du jour.
Alors, je la connais pas ce matin, parce que ce sera forcément aujourd'hui le Ballon d'Or. Qui sera sacré meilleur joueur du monde.
En fait, vous avez trouvé personne d'autre, c'est ça?
Non, aujourd'hui, ce sera forcément lui, la personnalité
Florian
sport
Sauvin.
Du jour. Il n'est pas dans les finalistes. Il a gagné la Coupe du Monde aussi. Il y a des Français, mais pas lui. Griezmann, Mbappé, Kanté, Varane, Pogba. Beaucoup de prétendants et justement, ça pourrait leur porter préjudice parce que ça entraîne un éparpillement des voix des votants. Tout ça pourrait profiter à Luka Modric, le Croate, vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec le Real Madrid, mais seulement, entre guillemets, vice-champion du monde malgré tout son talent. Et pour cette raison, il n'est pas champion du monde. Modric ne devrait pas être lauréat, pense l'ancien bleu Laurent Blanc.
C'est un excellent joueur, j'adore ce joueur, mais il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Si vous mettez Modric, à ce moment-là, c'est que... Vous pensez que des gens qui ont gagné la Coupe d'Europe plus la Coupe du Monde, ils ne méritent pas le Ballon d'Or au profit de quelqu'un qui n'a pas gagné la Coupe du Monde.
C'est déjà arrivé hein, par le passé, propos recueillis par Corinne Boulou et verdict peu après 22h ce soir.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Encore une grosse prestation et Jérôme Lacroix, c'est Blaise Matuidi qui en parle le mieux.
C'est un phénomène et bravo parce qu'il m'épate de jour en jour et ce qu'il fait c'est incroyable, il n'y a plus de mots.
C'est ce que je me dis aussi chaque matin quand je vous vois.
Bisous, Blaisou.
Europe 1. Il est 5h38, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos rigoureuses égayées par la joie de vivre de mes complices Sévaroc et Céline Dacosta, dont nous entendrons tout à l'heure la reprise inédite de Mrs. Robinson a cappella. Et avec une connaissance de l'anglais, vous verrez, disons, assez approximative. À suivre, tous nos conseils culture et nouvelles technologies dans lundi, les bons tuyaux. Et puis, le Lévothyrox en procès aujourd'hui à Lyon. Le docteur Ichou revient sur ce médicament qui a suscité plus de 4000 plaintes.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 5h39, Mathieu Noël.
Ma chère Céline, un point sur la météo, un ciel encore très nuageux avec même quelques averses.
Oui, et du vent également. Il sera soutenu cet après-midi sur tout le pays, plus calme entre les Pyrénées et les Alpes du Sud, où là le soleil va briller mais sera souvent voilé. On retrouvera de bonnes rafales de vent sur les côtes varoises et les caps corses. Le ciel sera souvent nuageux avec des averses. On aura encore quelques éclaircies sur la moitié nord. Un ciel qui va devenir orageux sur le nord-nord-est dans l'après-midi. On a déjà quelques coups de tonnerre près des frontières du nord ce matin. Et les températures, elles sont toujours très douces hein, cet après-midi. 13 à 16 degrés en moyenne pour la moitié nord, 14 à 19 pour la moitié sud. Ça va même grimper jusqu'à 21 degrés du côté de Perpignan.
Merci Céline. Eva Rock.
Un site de voyage a demandé si cette fin 2018 était la dernière chance de voyager dans votre vie. Quels sont les pays que vous souhaiteriez visiter? On a posé exactement la même question aux auditeurs. Ils nous ont répondu sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Olivier, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, mais je retournerai sur l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie. Alors, photo à l'appui, eau translucide ouais. Et variété des pins uniques. Je vous dis pas, ça donne très très envie. Carlisa nous dit impossible de choisir un pays, donc un tour du monde. Et puis Lutina nous dit États-Unis, Japon, Australie, pour finir aux Maldives avec toute ma famille et debout les copains dans les oreilles.
Oh, dans tous voilà. Ces endroits.
Oui, exactement.
On veut bien venir aux Maldives aussi.
Debout les copains aux Maldives.
Bah, avec oui. Le, avec non, le web.
Évidemment, on peut l'écouter, mais est-ce que. Oui, c'est vrai.
On peut faire l'émission là-bas en direct.
Ah,
éventuellement,
ça, c'est un projet qu'on peut lancer à la direction. Je pense qu'en termes financiers, ça doit être intéressant. Effectivement. Merci à vous, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
5h41, l'heure de notre page santé avec le docteur Marcel Ichoux. Bonjour Marcel.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui se tient à Lyon la première audience d'un procès intenté par 4113 plaignants contre le groupe allemand Merck à l'origine du médicament Levothyrox. L'industriel est accusé de défaut d'information au sujet d'une nouvelle formule qui aurait causé de nombreux effets secondaires. Pour commencer, dites-nous à quoi sert ce médicament, le Levothyrox ?
Il faut d'abord savoir à quoi sert la thyroïde. La thyroïde, c'est un peu le carburateur de l'organisme. En gros, quand la thyroïde fonctionne à plein, vous avez l'énergie. Si elle fonctionne trop, vous arrivez à être un peu excité, avoir des bouffées de chaleur, etc. Et c'est l'inverse. Quand l'insuffisance thyroïdienne arrive, c'est que vous avez à ce moment-là tous les mécanismes qui se déplaient et vous avez froid, des tremblements, une apathie. Donc ça, c'est la thyroïde. Donc quand il y a une insuffisance thyroïdienne, on donne des hormones thyroïdiennes. C'est le Levothyrox qui est une hormone thyroïdienne.
Et alors, pourquoi cette polémique sur ce médicament ?
On a changé l'excipient, passant du lactose au mannitol, pensant qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de changements dans la mesure où la molécule, l'hormone était la même. Et là, on a vu apparaître, au début, pas mal d'effets secondaires, mais dont on doutait de la véracité, parce que vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle un effet nocebo. On a changé la formule, on a changé la boîte et les gens. On a fait des bilans biologiques à ces personnes. Parfois, ils étaient normaux. Et néanmoins, on a vu croître quand même des effets délétères, des céphalées, des vertiges, de la fatigue, de la perte de mémoire. Ce qui a conduit les patients à se regrouper en action et à porter cette plainte auprès du laboratoire Merck. Et très honnêtement, même nous médecins, on était complètement perdus parce qu'il n'y avait objectivement aucune raison qu'il y ait ces changements. Mais manifestement, force est de constater qu'ils existent. Donc, il faut faire quelque chose avec ça.
Merci. Merci, docteur Ichoux. Je trouve que maintenant, vous avez dit les symptômes, c'est le tremblement, le
froid. Vous avez dit quoi, tu dis ?
Mettez-moi plus de chaud dans le studio, s'il vous plaît. Merci, docteur Ichoux. On se retrouve demain, 5h40.
Il est 5h43, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures où l'actu et le rire vont main dans la main afin de vous garantir un réveil aussi informé qu'enjoué. À suivre lundi les bons tuyaux. Tous nos conseils culture et nouvelles technologies pour égayer votre semaine avec notamment une pièce de théâtre qui va vous marquer. La dernière fois que Thierry Geffroytin nous avait conseillé une pièce, souvenez-vous, Céline, ça vous avait beaucoup plu ?
Je suis partie faire pipi, mais bon, c'était sûrement très intéressant.
Bon, en attendant, un peu de musique, Vanessa Paradis, ces mots simples sur Europe 1.
J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte. La première fois, enfant, à moi-même de temps en temps. Ces mots simples pour te les dire, Il faut remettre de sa peau, oublier qu'on fut avant. Pour d'autres, un peu tremblant, ces mots simples qui font frémir et certains autres mourir. Je te les donne à présent, c'est mon cœur, c'est mon sang.
C'est fou, j'ai l'impression qu'elle me parle. C'est très émouvant.
Sur mes rêves.
Vanessa, bah oui, dans mes rêves. Vanessa Paradis, c'est beau simple sur Europe 1.
Europe 1, il est 5h45, Mathieu Noël.
À suivre, le meilleur de la culture et des nouvelles technologies. Lundi, les bons tuyaux, des conseils, des bons plans. Un coup de cœur théâtre aujourd'hui et les vrais usages des Français sur Internet. A tout de suite.
Il est 5h46, l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
Plusieurs figures politiques reçues toute la journée à Matignon par le Premier ministre pour évoquer la crise des gilets jaunes, Olivier Faure, Laurent Wauquiez et Marine Le Pen notamment. La réponse pénale sera extrêmement ferme, parole de la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Après les violences de samedi, des dizaines de manifestants placés en garde à vue doivent passer en comparution immédiate. Enfin, 3 ans après une COP21 ambitieuse mais fragilisée par le retrait des États-Unis, la COP24 s'ouvre en Pologne. Les pays les plus menacés par les catastrophes climatiques vont réclamer plus d'engagement de leurs partenaires du Nord.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce lundi 3 décembre. Et au moment de lancer la séquence des pronostics hippiques, j'aurai une pensée pour feu Jean Rochefort, cet immense acteur également passionné de chevaux, qui a un jour eu cette phrase légendaire.
Les chevaux me bouleversent et m'ont toujours bouleversé. Nettoyer une vulve de jument, c'est pas assez un beau dimanche.
Nettoyer une vulve de jument, c'est passer un beau dimanche. Qui, à part Jean Rochefort, pouvait dire ça? C'est magnifique. Vous confirmez, José Coves?
Oui, j'ai passé un bon dimanche. Vincennes, 18 trotteurs sont à un départ de 1100 mètres sur la grande piste. C'est la première course. Mes 5 favoris sortent de ce peloton. D'abord, le 9, Abercrombie. Ce bon résistant a toujours été à la pointe du combat. Le 15, Brandy Jet est sur son meilleur parcours. C'est le jour J. Puis le 4, Bikini. Il se met toujours à plat ventre. Le 14, Bayoko Satou a déjà été affûté pour cet objectif. Quant au 3, bientôt Jenny Lou, il partira avec la confiance de son entourage. On y croit. 3 autres possibilités. Le 5, Bon Jenny Lou, un collectionneur de places d'honneur. Le numéro 1, Bois du Bonnet, il vient de se balader en province. Et enfin, le 17, Altus Fortis, c'est plutôt un bon cinquième. Voici donc mon ticket pour cette première course vers 13h47. D'abord le 9, le 15, le 4, le 13 et le 3, et ensuite le 5, l'As et le 17.
Dites-moi José, j'aime bien ce bikini qui se met toujours à plat ventre.
Ce maillot de pièce sexy à l'envi vous a toujours fait fantasmer, Mathieu. Et paraît-il déjà très jeune. Mais là, on parle d'un hongre de 7 ans. Un trotteur au cœur vaillant, une véritable rampe de turfiste. Les turfistes prêts à investir vous le diront. On peut se déshabiller sur un tel cheval, surtout lorsqu'il s'appelle Bikini.
Merci José, notre trotteur au cœur vaillant.
Il est 5h49. Europe 1,
5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici lundi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, François Geffrier ce matin pour les nouvelles technologies et Thierry Geffrotin pour le théâtre. Thierry, dont j'adore les chroniques, et je ne suis pas le seul. Bernard Poirette, qui présente Europe Weekend, a découvert en début de saison que Thierry était un super journaliste. Il a eu une petite phase de doute, mais très vite, il s'est rendu à l'évidence.
Bon, tu vois, j'étais dubitatif. Quand t'as voulu récupérer cette chronique, je me suis dit, est-ce que ça va pas tomber comme un poil de cul sur un bol de lait, etc. Mais en fait, c'est vachement bien. Hein.
Eh ben, évidemment que c'est vachement bien, Bernard. Tu connais pas Thierry ? Thierry, ce matin, vous nous parlez théâtre avec un véritable coup de cœur. Hein. Non pas que les autres soient faux, mais là, ça vous a vraiment laissé sans voix.
Oui, c'est le retour d'Éric Cantona sur une scène de théâtre, en l'occurrence au Théâtre Antoine à Paris. La pièce a pour titre « Lettre à Nour ». Comme son titre le laisse entendre, la pièce prend la forme de lecture de lettres. D'un côté, un père musulman, pratiquant, tolérant. De l'autre, sa fille de 20 ans qui a disparu subitement. En fait, elle est partie en Irak rejoindre un homme qu'elle a épousé en secret, qui est un lieutenant de Daesh. Et tout d'abord, le père ne comprend pas.
Comment as-tu pu partir ainsi, sans rien me dire? Et moi, comment n'ai-je pas soupçonné ton projet insensé?
Je t'en supplie, reviens.
Ce père est désemparé, hein, vous l'entendez, et il va se trouver face à un mur. Sa fille, Nour, qui a donc épousé la cause de Daesh.
Je ne connais rien de plus exaltant. J'ai l'impression de vivre 100 000 fois plus par toutes les cellules de mon corps en accomplissant une mission pour Allah, subhanahu wa ta'ala, pour le monde, pour toute l'humanité, pour mes futurs enfants, et aussi pour toi, mon papa chéri.
Alors ces lettres, ce sont à la fois des mots d'amour hein, que s'écrivent ce père et sa fille, des arguments qu'ils s'opposent aussi à propos de l'islam, et s'agissant du père, c'est aussi une véritable leçon de philosophie.
Si vous craignez Allah, alors craignez de vous tromper dans vos convictions et cherchez humblement. Les musulmans sont appelés à être d'humbles chercheurs. Tu le sais bien, ma petite Nour, le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes.
Éric Cantona et Nassima Bektaoui, donc dans Lettre à Nour au Théâtre Antoine. Je ne vous demande pas comment sont les comédiens, hein, les extraits parlent d'eux-mêmes.
Ah oui, les extraits sont très forts, l'interprétation aussi est bouleversante, comme le sujet de la pièce écrite par Rachid Benzine.
Merci beaucoup Thierry Geffrotin. Et à vos côtés ce matin pour parler nouvelles technologies. Comme vous ne supportiez plus l'insolence de Grégoire Martinez.
Thierry découvre Instagram.
Ouais, t'étais pas né que je connaissais déjà.
On l'a donc évincé, provisoirement, et je vous présente son remplaçant du jour, François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour à tous.
Ce matin, François, vous voulez nous faire jouer aux devinettes, visiblement.
Oui, à votre avis, est-ce que nous passons plus de temps sur Internet ou devant la télé ?
Sur Internet.
Ah, oui.
Et ben, la réponse, c'est la même chose. On passe 18 heures par semaine devant la télé et 18 heures par semaine sur Internet. Ça fait quand même au total 5 heures par jour devant des écrans. C'est une étude qu'on vous dévoile en avant-première sur Europe 1 qui le dit. Étude de l'ARCEP, gendarme des télécoms en France. Comme vous aimez les devinettes, à votre avis, sur 4 Français, combien possèdent un smartphone ?
Allez, 3 pour pas dire 4.
4, ouais.
4 maintenant.
Non.
Et ben 3 sur 4. Non, seulement 3 sur 4. Effectivement, Eva a raison.
Ah oui, un smartphone, oui, pardon.
Un smartphone, effectivement, un téléphone intelligent sur lequel on va sur Internet. Troisième devinette, en moyenne, est-ce qu'on utilise Internet plutôt pour ses achats, pour les réseaux sociaux ou bien pour les démarches administratives ?
Les deux, non ?
Alors moi, il y a trois propositions.
Ah non, je vais dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est les démarches en premier, ensuite les achats, ensuite les réseaux sociaux.
Les démarches en premier.
En quatre, les pratiques collaboratives. Par exemple, le covoiturage, Mathieu. Je sais que vous aimez bien.
Ah, ça, j'adore ça. D'ailleurs, oui, ce week-end, on est parti en covoiturage en Normandie.
Oui.
Oui. Alors donc, les devinettes, c'est bien, mais à quoi
c'est bien,
à quoi ça nous sert de savoir tout ça ? J'aime bien comme vous vous auto-taclez dans vos relances.
Ça permet de se rendre compte de la réalité en fait de ce que vivent les Français. Par exemple, on voit que seulement 61% des Français utilisent les réseaux 4G, qui est donc le réseau le plus rapide pour surfer.
Ça veut vous dire, il y a des zones où il n'y a pas de 4G. Hein.
Exactement, alors que dans les pubs pour les opérateurs télécoms, ils nous disent que leur réseau est incroyable, que 99% de la population est couverte. La conclusion, c'est que c'est soit trop cher, soit qu'on n'en voit pas l'intérêt, soit que ça ne fonctionne pas assez bien. On apprend aussi qu'un Français sur 5 abandonne face à Internet parce que c'est trop compliqué. Et comme le gouvernement nous oblige à déclarer nos revenus sur Internet, comme il a promis que tous les Français auraient du très haut débit en 2022, ce genre de petites stats permet de mettre la pression sur le secteur.
Merci beaucoup François Geffrier pour cet éclairage numérique. Et maintenant, on passe à Eva Rock. Eva, qu'est-ce que vous avez sélectionné pour nous ?
Vous alliez dire un truc énorme.
Non, pas du tout, je me suis juste trompé de page en fait.
D'accord,
donc,
c'est ça.
D'où ce petit temps de latence.
Samedi
inutile.
Matin, Catherine Sellac fermait définitivement la porte de l'appartement où depuis 22 ans, elle recevait tous les samedis et tous les dimanches des personnalités pour un entretien thé ou café. La direction de France Télévisions a en effet décidé d'arrêter ce programme après 1752 numéros.
C'est un cataclysme.
Mais
c'est
oui, dommage. Alors pour cette dernière, Catherine Sellac avait autour d'elle quelques-uns des invités qui ont compté pour elle. Amélie Nothomb, Louis Chédid, Ariel Dombal, Thierry Marx, Gueluc, Laurent Gérard et Chantal Latsou. Alors une dernière qui est à l'image de toutes les autres, entre confidences souriantes et émouvantes, et évidemment des tas de souvenirs comme ces réponses obtenues, vous savez, lors d'une interview dos à dos.
Est-ce que vous êtes déjà réveillé sans connaître le prénom de l'homme qui était à vos côtés dans votre lit?
Oui, il y a longtemps, quand j'arrivais à Paris, à tous mes débuts, oui, ça m'est arrivé.
Même pas réveillé, même dans mon lit avec un mec, j'avais complètement oublié son prénom, mais oui.
Si vos petits-enfants vous demandaient la définition de l'amour, qu'est-ce que vous leur répondriez ?
Ben, je répondrais que c'est d'avoir toujours follement envie de tenir la main de quelqu'un.
Vous venez d'entendre Alexandra Lamy, Isabelle Mergault et Elisabeth Badinter. Alors il y a des décisions qui sont plus ou moins compréhensibles. Celle d'arrêter cette émission me dépasse. Je n'ai pas de réponse à ça. Catherine Sellac avait su instaurer un
mais
moment...
Mais ça marchait bien en audience ?
Oui, ça marchait bien en audience. Elle avait su instaurer un moment conjuguant culture et intelligence. C'est un programme très travaillé, exigeant et bienveillant. Je trouve ça très dommage d'avoir arrêté cette émission.
Merci beaucoup Eva
Rockner. Avoir en replay, excusez-moi, la dernière de Thé au Café sur France.tv.
Bah oui, parce que moi je l'ai ratée personnellement.
Mais vous pouvez la re-regarder.
Très bien, merci Eva Rock, merci. Merci à toute l'équipe de Lundi les Montuyaux. Thierry, comment vous avez trouvé le jeune Geffrier ?
Précis et dynamique tout en restant souple.
Ah, c'est pour ça que j'ai choisi un Geffrier très souple.
Il est 5h55, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kalman.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 5h57, Mathieu Noël.
L'heure de la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta. Seulement, vous voyez toujours le mauvais côté des choses. Vous m'écrivez une journée encore pluvieuse, mais il fait doux aussi.
Ah bah oui, c'est vrai. Par là, moi, c'est vrai, bon, mais... si vous voulez, on peut commencer
non,
par
non,
la,
non,
la,
commencez
la douceur.
Commencez par là, puis si ça vous fait plaisir.
Non, commençons par la douceur, vous avez raison. Très douce, déjà, ce matin, avec 15 degrés à Roissy, 14 à Biarritz, Clermont-Ferrand, Paris, 13 à Lille et à Brest, 12 à Mulhouse, 11 degrés en ce moment à Toulouse, 10 à Bastia, 9 à Montélimar et 8 pour l'une des plus basses à Nîmes. Cet après-midi, on restera au-dessus des normales avec 13 à 17 degrés, 17 à 21 même près de la Méditerranée. Bon voilà, les températures sont douces mais la journée est encore assez grise, assez pluvieuse et ça sur les trois quarts du pays. Ce matin c'est mitigé de la Bretagne à la Lorraine en passant par la région parisienne avec un ciel partagé entre nuages. Alors quand même on aura quelques éclaircies mais timides, des averses, du vent. On pourrait même avoir quelques coups de tonnerre entre le Pas-de-Calais et la Moselle. On aura un temps plus calme avec du soleil même s'il restera assez voilé entre les Pyrénées et les Alpes du Sud. Entre les deux, c'est encore couvert avec des averses qui seront soutenues sur l'Alsace.
Et cet après-midi, Céline ?
Les averses orageuses gagneront tout le nord, le nord-est. Le vent va se renforcer sur la moitié nord. On aura malgré tout encore quelques timides éclaircies. Le soleil continuera de briller sur l'extrême sud et gagnera même la vallée du Rhône. Partout ailleurs, ce sera encore bien couvert avec des averses et un vent encore et un vent qui va être soutenu. Des rafales de vent jusqu'à 70 km/h à l'intérieur des terres. Puis on aura un petit peu de neige sur les Alpes du Nord, des 2200 mètres. Et le soleil va briller en Corse.
Merci Céline. Eva.
Si cette fin 2018 était la dernière chance de voyager dans votre vie, quels sont les pays que vous souhaiteriez visiter ? C'est un site de voyage qui a posé ça comme question. Et bien nous on l'a posé aussi à nos auditeurs, ils nous ont répondu sur Twitter avec le hashtag Europe 1, comme Suzy dans l'espace pour regarder de haut cette fameuse planète bleue. Moi je pense que j'aurais répondu la même chose. Frédéric nous dit aux îles Kerguelen au bout de l'océan Indien. Et puis Véronique, m'asseoir et rêver à Venise puis direction Stockholm. Elle aurait même marqué plein de noms imprononçables de lieux. Puis j'inviterai tous ceux que j'aime
à
finir leur vie à 150.
Écoutez, essayez d'être à la hauteur de ce que les auditeurs vous envoient.
Allez, mais je vous embrasse tous. Voilà.
C'est très décevant de votre part, Eva Rock, ce manque de témérité. Merci Eva, merci à vous chers auditeurs.